Je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8. Et au verset 12, Jean 8, 12, un simple verset. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On le relit. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Jésus, c'est la lumière du monde. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit, « Je suis la lumière du monde. » Il disait cela à ses disciples, il disait cela même à des pharisiens qui, juste après, vont lui en vouloir, vont méditer sur sa mort, des gens à qui ça ne va pas plaire. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Certains ont entendu, ont rapporté ces paroles, comme Jean l'évangéliste, mais d'autres ont refusé d'entendre cette parole, ont refusé de croire que Jésus était la lumière du monde. Et c'est pourtant la réalité. Jésus, c'est la lumière du monde. Et si quelqu'un était nouveau parmi nous ce soir, je voudrais après parler à ceux qui connaissent déjà le Seigneur, mais si quelqu'un était nouveau, il me faut vous dire qu'il vous est possible de passer des ténèbres à la lumière. Il vous est possible de passer d'idées noires à d'idées nouvelles. Il vous est possible à passer d'objectifs ténébreux, méchants, mauvais, peut-être à l'objectif de se supprimer, peut-être l'objectif eh bien, de faire du mal, de répandre la violence, de répandre la vengeance, de ces objectifs-là, de passer à des objectifs bien plus merveilleux, lumineux, joyeux, puisque Dieu peut et veut changer vos cœurs par la puissance du sang de Jésus-Christ, qui est lui-même la lumière. Premièrement, les ténèbres, les ténèbres. S'il y a une lumière, il y a aussi des ténèbres. Qu'est-ce qui se passe dans le noir? Il y a, qu'est-ce qu'on a quand on est petit? Dans le noir, on a peur. Dans les ténèbres, il y a la peur. On vit peut-être dans ce monde la peur du lendemain, la peur des circonstances. On est dans une circonstance malheureuse, mauvaise, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. La peur est là. Le monde est dans les ténèbres. La violence, les gens sont de plus en plus égoïstes, restent tout seuls de leur côté. Ils disent communiquer avec le monde entier, mais ils sont tout seuls devant un écran. Ils sont tout seuls dans leur chambre, dans une pièce, peut-être même dans le noir, simplement avec la pseudo-lumière d'un écran. Et ils sont que là, tout seuls. Les gens, le monde, sans Jésus, sont dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a, oui, la peur, peur du lendemain. Dans les ténèbres, eh bien, on peut ne pas voir un fossé. Dans la voiture, quand il n'y a pas d'éclairage sur le chemin, on peut avoir peur d'un piège, d'un fossé. On ne voit pas les pièges dans les ténèbres. Je me souviens d'une fois où je rentrais de l'église et j'habitais dans un petit village. Il me fallait faire 20 minutes de route dans la campagne. Quand j'avais les feux qui marchaient, tout allait bien. Mais un jour, j'avais plus d'argent et je n'ai pas pu remplacer les ampoules. Et les ampoules ne marchaient que quand je mettais les pleins feux. Plein feu. Quand je mettais les codes, il n'y avait plus rien. Alors quand je croisais quelqu'un, j'étais obligé d'enlever. Et je me retrouvais dans le noir. Et la personne allait. Puis est venu le temps où même les pleins phares ne marchaient plus. J'y voyais plus rien. Et j'ai avancé. Quand il y avait la pleine lune, ça allait. Mais quand il n'y avait plus la pleine lune, j'ai avancé. Et plusieurs fois, j'ai failli me prendre des sangliers. J'ai failli me prendre des bêtes parce qu'ils ne me voyaient pas arriver. Il n'y avait pas de lumière. Et moi, je ne les voyais pas. Non plus, j'avais pas de lumière. Sans lumière, il y a des pièges et on peut tomber dedans. Sans lumière aussi, quand un endroit est dans un lieu sombre, noir, il y a l'humidité, le froid qui vient. Le froid. Et quand il y a la lumière d'une flamme, il y a de la chaleur. Même une ampoule fait de la chaleur. Quand il y a de la lumière, on est rassuré. On est peut-être dans plus de chaleur. Alors s'il y a les ténèbres, oui, il y a la lumière. Et à quoi sert-elle la lumière? À quoi sert-elle? À grandir. Les plantes, elles grandissent grâce à la lumière. Sans lumière, elles puisent dans leurs ressources pour grandir, mais elles sont toutes petites, toutes chétives et blanches, vous voyez. Aucune couleur, rien. Et puis au bout d'un moment, elles meurent. Elles meurent. À l'école, on faisait cette expérience, on faisait pousser des lentilles, et alors qu'on avait mis une lentille sur du coton humide, on l'avait mis dans le noir, dans un placard, et on avait fermé. Et on avait laissé une semaine, on avait dit on n'ouvre pas. Et on a vu Au bout d'une semaine, quand on a ouvert, on a vu que la tige avait monté toute blanche. Elle avait monté, et puis elle était toute flétrie comme ça, et elle allait entre les portes. Vous savez, on ferme le placard. Elle avait remarqué qu'il y avait un tout petit peu plus de lueur là. Elle allait vers la lumière. Elle a besoin de lumière, la plante, pour grandir, pour s'épanouir, pour vivre. L'homme, c'est pareil. Il a besoin pour grandir. Pour grandir, il a besoin de lumière. On voit que la plante, elle s'élève. Elle s'élève. Elle a besoin de lumière pour s'élever. Et l'homme, pour être dans les hauteurs de Dieu, dans les hauteurs célestes, pour être plus haut, pour des choses plus nobles, il lui faut la lumière de Jésus. À croître, elle sert aussi à se réchauffer. Et qu'est-ce qu'il y a comme de plus belle chaleur que la chaleur de l'amour? Quand on se sent aimé, notre cœur est réchauffé. C'est pas vrai? Il fait chaud dans le cœur, même s'il fait froid dehors. L'amour, quand on n'est pas aimé, il fait froid dans le cœur. L'amour. Et Jésus est plein d'amour. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions échapper à l'enfer. Oui, s'il y a les ténèbres, il y a l'enfer, ce lieu où il n'y aura pas de lumière. Pour l'éternité, plus jamais de lumière. Et lui, le Seigneur, il veut nous réchauffer par son amour. Il veut nous communiquer son amour, nous remplir de l'amour de Dieu. La lumière, je l'ai dit, elle sert à éviter les pièges. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'étais dans le couloir de la maison à côté, je voulais fermer l'église. Et j'ai dû faire quelques mètres dans le noir, je cherchais le bouton, je devais avancer, il y avait une porte qui était ouverte, je me suis pris la porte, dans le noir. On ne voit pas les pièges. Tout à l'heure, à la maison, je me brossais les dents pour repartir, j'ai fait un saut à la maison, je me suis brossé les dents, la lumière, il y a une coupure de courant. J'ai dit, tant pis, je fais ça dans le noir, j'ai l'habitude de se laver les dents. J'ai penché la tête, je me suis pris le robinet. Vous voyez, quand il n'y a pas la lumière, on tombe dans les pièges, on tombe dans des dangers qui sont là. On est vulnérable quand il n'y a pas la lumière. L'homme a besoin de la lumière de Jésus dans sa vie. Pour lire, on a besoin de lumière, non? C'est pas vrai? Pour lire, on a besoin d'allumer la petite lampe de chevet ou la lumière. On a besoin de se mettre au soleil. On en a besoin. Eh bien, pour comprendre la parole de Dieu, non pas la lire comme un roman, mais pouvoir recevoir toute la vie qui est en elle et qu'elle veut nous communiquer, la foi qu'elle veut nous communiquer, on a besoin de Jésus. De Jésus, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus présent au milieu de nous. C'est ça. Le Seigneur Jésus est présent au milieu de nous par son Esprit. Le Saint-Esprit est comme une lumière qui est là et qui veut éclairer, qui veut nous faire comprendre. Les Saintes Écritures, c'est marqué dans Jean 14, 26, si vous voulez le lire une autre fois. La lumière nous sert à être rassurés, je l'ai dit. Et Jésus, par sa lumière, veut nous rassurer, nous donner de l'espoir. Parce que s'il nous pardonne de nos péchés, s'il nous pardonne de nos offenses, s'il efface la condamnation, la faute, nos fautes, nos péchés, eh bien c'est pour nous ouvrir le ciel, le paradis, l'espérance. La lumière nous rassure quand il fait jour, quand il y a la lumière, on est rassuré. Certains, vous êtes peut-être comme ma femme, quand il n'y a personne à la maison, qu'il fait noir la nuit, qu'elle dort, et dès qu'il y a un bruit, elle se réveille. Elle est là et elle attend. Et elle a peur des fois. Elle a peur. Quand il y a quelqu'un d'autre, ça va. Mais quand il y a la lumière, ça va mieux. Ça va mieux. Des fois, je sors la nuit pour aller voir les filles de la rue, leur parler du Seigneur avec M. Galifot. Et quand Stéphanie passe la nuit toute seule, le moindre bruit, elle se réveille, elle allume la lumière. Premier réflexe. Elle me dit, bon, quand tu rentres, ça va mieux. Hein? Puis quand il y a la lumière du jour, ça va de mieux en mieux. La lumière rassure. Elle donne de l'espoir. Jésus donne le paradis. Le paradis, ce lieu où Jésus, Dieu sera notre lumière. La lumière, oui, cette lumière, c'est Jésus. Jésus, suivez la lumière comme un phare dans la nuit et vous arriverez au bon port, vous arriverez au paradis. Suivez Jésus comme un phare dans votre vie et vous arriverez au bon port, vous arriverez au paradis. C'était ce que je voulais partager d'abord avec ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Gardez cette image que Jésus veut être une lumière, veut envoyer sa lumière dans votre vie, pour vous aider, vous faire grandir, vous élever, vous réchauffer par son amour, vous éviter les pièges, vous faire comprendre les Écritures, vous rassurer. Jésus veut faire tout cela et vous accorder le paradis. Ne vous prive pas de ce bienfait que Dieu vous accorde encore ce soir. Et puis j'aimerais aller plus loin avec ceux qui connaissent déjà le Seigneur, et je vous invite à reprendre Jean chapitre 9 maintenant, et verset 5. Jean 9, verset 5. Jésus dit la même chose, mais avec une précision. Il dit ça: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Sous-entendu, tant qu'il n'était pas venu dans le monde était plongé dans ses ténèbres, sans lumière. Sans lumière. Et Dieu était obligé de répandre son esprit, comme j'en ai parlé tout à l'heure, sur quelques personnes, des prophètes, pour se révéler et éclairer les hommes. Tant qu'il était dans le monde, Jésus était la lumière du monde, personnellement. Mais Jésus est mort, il est ressuscité, il est auprès du Père, et il prépare une place pour ceux qui l'acceptent et ceux qui veulent le suivre jusqu'au bout, et malgré tout, par la foi. Tant qu'il était dans le monde, il était la lumière en personne. Sa vie était une lumière, sa personne était la lumière du monde. Jésus pouvait dire, et il l'a dit à plusieurs reprises, « Je suis la lumière du monde ». Dans Jean, au début, les premiers chapitres, il dit « La lumière était dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue, ne l'a pas connue ». Elle était, mais depuis que Jésus est parti, Jésus n'est plus la lumière du monde physiquement. Alors il nous donne une autre parole dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Si Jésus est parti, on pourrait se dire, mais mince, il n'y a plus de lumière. Mais si, il y en a encore, et vous voyez où je veux en venir, ceux qui lisent la parole. Matthieu 5, verset 14, Jésus nous dit quelque chose de très important pour nous ce soir, que je voulais relever. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus n'est plus parmi nous physiquement, mais il est en nous qui sommes ses enfants. Et il est la lumière du monde en nous. Et il fait en fait de nous des lumières. Et si nous ne brillons pas, le monde n'aura plus de lumière. Jésus est toujours la lumière du monde, mais au travers de ses enfants. C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un se consacre, se donne à Jésus, Dieu ne l'enlève pas de la terre tout de suite. Il le laisse sur la terre pour qu'il rende témoignage, qu'il soit un témoin fidèle. Et Dieu veut nous utiliser pour que sa lumière brille dans le monde, puisque lui, il n'est plus physiquement sur la terre. Et alors qu'il disait « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde », il dit maintenant « Vous êtes la lumière du monde ». Et le rôle de tout enfant de Dieu, c'est de devenir, d'être, non pas par ses propres moyens, mais par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, une lumière lui-même dans le monde. Et c'est bien mieux. Jésus l'a dit « Il me faut que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas ». Jésus ne pouvait pas être partout à la fois quand il était physiquement sur la terre, c'est pas vrai ? Jésus ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. Maintenant, aujourd'hui, il l'est, par son esprit. Plus de deux même. Mais autrefois, il était limité, puisqu'il s'est fait homme, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Mais aujourd'hui, il a trouvé la solution. Chacun d'entre nous, nous sommes remplis de sa personne, de son esprit, et on est tous des lumières. Il y en a encore plus. Gloire à Dieu. Et si certaines villes voyaient la lumière comme un soleil levant se lever sur eux, comme c'était prophétisé dans Malachi, aujourd'hui, le monde entier voit la lumière de Jésus au travers de tous les enfants de Dieu. Et je crois que par notre comportement, par notre vie, par notre négligence, on peut empêcher les hommes de voir la lumière de Jésus. On peut empêcher Jésus de servir de nous pour éclairer les hommes. Si nous négligeons sa parole et son conseil qu'on va trouver encore ce soir, Dieu veut que nous brillions. Il dira plus tard que vos lampes soient allumées. On va lire tout ça. Dieu veut se servir de nous. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alors comment sommes-nous la lumière du monde? Comment est-ce qu'on devient la lumière du monde? Je l'ai dit juste avant, premièrement, on se repent, on se convertit, qu'on change de mentalité, hein, changer de mentalité sur la repentance. Je ne vais plus dans la même direction, je n'ai plus les mêmes objectifs dans ma tête, je renonce à certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, je prends la mentalité de Dieu et je la reçois par la parole de Dieu, son enseignement, je médite la parole pour avoir la mentalité du Seigneur, je me repens, je change de mentalité, je demande pardon pour mes péchés, je les abandonne, je crois que Jésus me pardonne, efface tous mes péchés et je me convertis en choisissant de suivre Jésus. Conversion, je fais demi-tour. Qui fait du ski? Qui fait du ski parmi nous? Il y a quelques adeptes, hein, du ski. Qui a déjà fait du ski? Bon, il y en a encore plus. Ah, Norbert, vous avez fait du ski. Qui sait ce que c'est qu'une conversion? Oh, je vois les gestes et tout. Je vois les gestes. Une conversion, c'est faire demi-tour. Alors, il y a une manipulation, là. En ski, une fois, ma femme m'a essayé de m'expliquer. Je me suis retrouvé sous les fesses en train de descendre la piste bleue. Vous voulez essayer? Je n'ai pas réussi. Une conversion, c'est faire demi-tour. Faire demi-tour. Quand on se repent, on change de mentalité, c'est intérieur. Quand je me convertis, je fais demi-tour, mais ça se voit physiquement. Je soumets mon corps à la volonté de Dieu. Je soumets toute ma volonté à la volonté de Dieu. Même mon corps obéit à la parole de Dieu. Ça se voit extérieurement. Ma manière de vivre, l'extérieur, choisit de suivre et d'obéir à Jésus. Et lorsqu'on se repent et qu'on se convertit, déjà, on est disposé à devenir une lumière. Mais ça ne s'arrête pas là. Lisez avec moi dans Psaume 119, trois points. Le premier, Psaume 119. Verset 105. Vous connaissez ce texte. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment moi-même devenir une lumière? Je crois qu'il me faut absolument être rempli de la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, que la parole de Dieu habite en moi. Qu'elle demeure en moi. On pourrait lire dans Colossiens 3:16, hein, que la parole de Dieu habite en vous, habite abondamment en vous. Que la parole de Dieu habite en moi. Et elle sera une lumière sur mon sentier, mais aussi elle me permettra de communiquer une parole de lumière pour les autres. Une parole qui va éclairer quelqu'un. Vous connaissez, le Saint-Esprit donne des paroles de connaissance, des paroles de révélation, du discernement, toutes sortes de paroles qui viennent de sa parole, je crois. Des textes appropriés, dits au moment opportun, qui vont éclairer quelqu'un, le guider, lui montrer la voie. Nous-mêmes soyons remplis de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse nous rappeler ce qu'on aura entendu, lu ou appris. Premier point, être rempli de la parole de Dieu. Deuxième point, dans Luc, chapitre 12 et verset 35. Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ça vous fait penser à quoi quand il est parlé des lampes allumées? Il y a une parabole. La parabole des 10 vierges. On pourrait la lire dans Matthieu 25. Comment être la lumière du monde? Avoir sa lampe toujours allumée. Comment l'avoir allumée? verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors comment avoir sa lampe allumée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait, ces folles? Elles n'ont pas veillé. Qu'est-ce qu'il leur manquait? De l'huile. de l'huile. Comment avoir une lampe allumée? Comment pouvoir avoir toujours la lumière en nous? La lampe, je pense que ça représente mon corps, mon être tout entier, ma personne. Il me faut de l'huile à l'intérieur pour que ma lampe soit allumée. Il me faut la parole de Dieu à l'intérieur, mais il me faut aussi le Saint-Esprit. L'huile représente, vous le savez, le Saint-Esprit. Et il y a ce texte dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il me semble, qui dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Juste avant, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche ». On n'a pas besoin d'être rempli de vin. Ça, c'est pas bon. Mais par contre, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut l'onction de Dieu. Il nous faut le baptême dans le Saint-Esprit. Et on peut épiloguer longtemps sur le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que le parler en langue, c'est le premier signe ou pas? Ce que je vois dans toute la parole de Dieu, c'est que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il le sait, ça se voit. Il sait quand ça se passe. Le baptême dans le Saint-Esprit. Il peut dire, je ne l'étais pas, mais je sais ce jour-là, je l'ai été. Il le remarque quand il est baptisé dans le Saint-Esprit. Et si quelqu'un ne sait pas s'il est baptisé dans le Saint-Esprit, à mon avis, c'est qu'il ne l'est pas. Dans toute la parole, à chaque fois qu'il est parlé du baptême dans le Saint-Esprit, qu'il soit parlé des langues ou qu'il n'en soit pas parlé, puisqu'il y a les deux cas, à chaque fois il nous est montré qu'il y a une différence entre les secondes qui étaient avant et le moment où ils ont été remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Et si on était baptisé à une certaine date, puisque ça veut dire introduit dans un état, il nous faut encore être renouvelés chaque jour dans le Saint-Esprit. Puis vient aussi à côté la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est cette marche dans la volonté de Dieu, toujours sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais il nous faut toujours chercher à être remplis de la présence de Dieu dans nos corps. Et il est dit d'acheter de l'huile. Pourtant, avec Dieu, on sait qu'on ne mérite rien, on ne peut rien négocier avec Dieu. Qui peut donner son argent à Dieu? Ça ressemble à quoi? L'argent? L'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui a créé tout ça. Est-ce que vous ne croyez pas que si Dieu avait besoin de quelques lingots d'or, il créerait quelques filons quelque part? Je crois qu'il pourrait le faire de suite. Les lingots de suite d'ailleurs. L'argent, rien. Les mérites, les efforts, je veux dire les mérites, les médailles qu'on pourrait ressortir, ça ne servira à rien pour être rempli du Saint-Esprit. Et quand il est dit d'acheter de l'huile, ça veut dire que acheter, ça nous parle de l'effort de rester dans sa présence. Il nous faut le vouloir. Et la chair est allergique aux choses de Dieu. La chair est allergique à la prière. Et il nous faut nous efforcer à passer du temps dans la prière, même si notre corps dit non. Et moins on en a l'habitude, moins il en veut. Mais si on se donne une discipline, si on discipline notre corps et qu'on le soumet à la volonté du Saint-Esprit et de Dieu, alors petit à petit, eh bien on va arriver à le maîtriser. Voilà. Et si on arrête de le soumettre au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, la nature va reprendre ses droits. Un jardin, laissez-le quelques années, même quelques mois des fois, hein, revenez, ça repousse de suite, hein, il faut l'entretenir régulièrement. Et notre vie, notre cœur, notre corps même, c'est pareil. Il faut apprendre à l'assujettir à la volonté de Dieu. Comment être rempli? Oui, il faut acheter. Ça nous parle de faire ses efforts pour passer du temps dans la présence de Dieu. Pour être rempli de la présence de Dieu, il faut aller sous le vase qui est déjà rempli d'huile, sous le Seigneur, sous la source. Il faut se placer sous la source, sous la fontaine. Et puis on va être rempli. Et il faut y retourner régulièrement, parce que l'huile, ça se consume et ça s'épuise. Et si je reviens par régulièrement à la source, à Jésus, passer du temps devant lui, je vais être vide de Jésus, vide de sa présence, vide du Saint-Esprit. Acheter gratuitement, il est dit dans l'Apocalypse. Achetez de moi de l'or, de l'argent, du collyre pour vos yeux. Mais achetez gratuitement, il est dit. Parce que bien sûr, comme je l'ai dit, tout est grâce. On ne mérite rien de Dieu. On ne peut rien mériter de Dieu. Alors la deuxième chose, on s'en souviendra, il nous faut être remplis du Saint-Esprit pour que nos lampes soient allumées et qu'elles brillent, qu'elles ne s'éteignent point. Troisièmement et dernièrement, dans Proverbes chapitre 4 et verset 18, Proverbe 4 et verset 18. Il est dit ceci, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et moi, je crois je crois vraiment que cette parole, ce verset, nous indique que notre manière de vivre, notre manière de marcher, notre manière de vivre tous les jours, peut être une lumière pour les autres. Notre témoignage, il faut qu'il soit bon. Notre témoignage, il faut qu'il soit glorifiant Dieu. Il est dit le sentier des... Aidez-moi. Des justes. Pas le sentier des méchants. Pas le sentier des pécheurs. Le sentier des justes. C'est-à-dire ceux qui marchent dans la volonté de Dieu. Dans la justice de Dieu. Qui font sa volonté. Je ne parle pas qu'ils font des bonnes œuvres. Je dis ceux qui font la volonté de Dieu. Parce que quelquefois, on va dans une direction, ça peut paraître bien, ça peut paraître très, 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 très honorable, respectable, mais ce n'est pas là que Dieu nous veut. On n'est pas au bon endroit. On n'est pas dans sa volonté. Et il nous faut marcher dans le sentier de la justice, dans la volonté de Dieu. Et si on marche dans la volonté de Dieu, notre vie sera comme une lumière resplendissante. Notre manière de vivre va être comme un témoignage qui va frapper les cœurs et éclairer le monde. Et quelques personnes pourront dire, mais lui, il vit différemment, lui. Il marche différemment. Ce matin, quelqu'un que je connais, un homme âgé, qui n'est pas ici, vous ne le connaissez pas, m'a appelé, il m'a dit, Jérémy, je me suis fait attraper par Odapi. C'est ça, Odapi ? La loi contre le piratage, vous savez, la police d'Internet, là, qui viennent de faire sur le téléchargement. Cette personne qui a pris le baptême, elle me dit, Jérémy, hier soir, j'ai reçu un mail de cette police. Et ils m'ont dit, voilà, monsieur, à votre adresse IP, c'est-à-dire chez vous, quelqu'un télécharge des films, des trucs, des musiques, des choses avec des droits d'auteur. Et il vous faut veiller à ce que personne le fasse et vous devez régler l'affaire. Ils sont gentils, ils ne disent pas, vous faites ça. Ils disent, il y a quelqu'un chez vous qui le fait. Ils vont avec des gants, vous voyez. Et il lui disait, voilà, si vous ne changez pas dans 2 semaines, on vous recontacte. Et si vous ne changez pas, après, plus tard, on va vous envoyer un recommandé. Et si vous n'arrêtez pas, on ira en justice. Déjà, pour une personne baptisée, soi-disant appelée chrétien. Voilà le témoignage. Je sais que cette personne, je lui avais déjà dit, elle téléchargeait des films, téléchargeait des musiques. J'avais dit, mais arrêtez. Je crois que Dieu n'est pas d'accord avec ça, c'est du vol. C'est du piratage. Si le monde reconnaît que c'est du vol, alors nous encore plus en tant qu'enfants de Dieu, on devrait comprendre que les voleurs ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Et lui, il s'est fait recevoir ce mail. Dessus le mail, il y avait marqué, si vous avez besoin de plus de renseignements, appelez tel numéro. C'est pas ce qu'il a fait ? Il a appelé. Il a dit, allô ? Et il me dit, j'ai fait comme si je ne savais pas. Quelqu'un de baptisé, 65 ans, pas un jeune de 15 ans, hein. 65 ans. Il me dit, voilà Jérémy, je leur ai dit que je comprenais pas, je savais pas ce qui se passait, tout ça. Et ils m'ont dit, voilà, il y a des films, ah mais c'est ça, j'ai pas le droit. Et il a joué un jeu comme ça, il a menti. Et il a continué, puis il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire et tout. Et puis, il lui a expliqué, vous devez supprimer les fichiers. Il dit, oui, mais moi, j'ai des choses aussi originales que j'ai prises sur mes CD à moi. Comment je fais la différence? Vous avez vu comment on peut être ingénieux au mal, hein. Et il commence à dire ça, etc. Il lui a dit, ben, alors, supprimez les logiciels. Puisque vous ne savez pas comment faire, eh ben, supprimez les logiciels. C'est pas ce qu'il fait. Donc, il raccroche. Il m'a appelé. Vous savez pourquoi il me demandait? Pourquoi il m'appelait? Pour savoir s'il n'y avait pas une autre solution pour passer outre. Est-ce que vous croyez que c'est le sentier du juste? On rigole. Mais peut-être que nous, ce n'est pas le téléchargement. Peut-être que nous, c'est autre chose, j'en sais rien. Veillons à ce qu'il n'y ait rien qui empêche Jésus de nous utiliser pour qu'on soit la lumière du monde. Veillons à marcher dans les sentiers de justice. Les sentiers de la justice, veillons à ce que notre manière de vivre honore Dieu, glorifie Dieu. Et si on est repris parce qu'on s'est loupé, ou parce qu'on est mis à découvert, comme David a été mis à découvert quant à l'adultère qu'il avait fait, ne persévérons pas. On nous reprend, humilions-nous, ne cherchons pas une entourloupe, quelque chose. Je crois que Là, ça montre vraiment que cette personne, elle est loin de Dieu. Elle est loin de Dieu. Elle n'est pas convertie. Elle n'est pas sauvée. Elle n'est pas sauvée. Dernière chose, notre manière de vivre. C'est très, très important. Les choix qu'on fait. Les choix qu'on fait. De quel jeu je me nourris? Des jeux de magie, des jeux de choses? Vous croyez que ça glorifie Dieu? Et même si on ne nous voyait pas, vous croyez que ça glorifie Dieu? Vous croyez que le Saint-Esprit ne va pas être attristé après? Veillons sur ces choses. Veillons sur ces choses. Dans le témoignage, je mettrai la Sainte Cène. La Sainte Cène. Elle est là comme un témoignage de la mort de Jésus. Chaque fois qu'on prend le vin, le pain, le vin, on rappelle la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Ça aussi, c'est une lumière. Réalisons que ce moment de Sainte Cène qu'on passe le dimanche, c'est vraiment un moment particulier, un moment où on honore le Seigneur, on rappelle son œuvre à la croix. S'il y avait quelqu'un qui rentrait, qu'il soit touché par notre respect devant ce repas, notre manière de prendre ce repas, non pas la va-vite, non pas un petit peu de vin, un petit peu de pain, mais comme le corps de Christ, crucifié à la croix, déchiré pour nous, comme le sang de Christ coulant à la croix, lavant nos péchés, effaçant toutes nos iniquités et l'acte qui nous condamnait. Alors, vous qui ne connaissez pas cette lumière, est-ce que vous ne voudriez pas ouvrir les yeux sur cette lumière en ouvrant vos cœurs à Jésus, au Seigneur, à sa parole? Et nous qui le connaissons déjà, nous qui avons déjà goûté à la beauté de voir les couleurs du monde spirituel, je fais une image. Tout ce monde qui s'est ouvert lorsque Dieu nous a ouvert les yeux, Jésus est entré dans notre cœur, la lumière est venue en nous. Ne gâchons pas ce privilège. Ne privons pas les autres de ce privilège. Si nous, on néglige ça, il y en a d'autres qui aimeraient bien la voir, qui aimeraient bien l'entendre. Rappelons-nous que des hommes, des femmes meurent autour de nous, meurent spirituellement, meurent physiquement et n'auront plus l'opportunité de recevoir Jésus, de recevoir la lumière. Nous-mêmes, soyons des lumières. Brillons, brillons. En nous nourrissant de la parole, en la méditant, en étant éclairés par l'action du Saint-Esprit, en étant nous-mêmes eh bien, éclairés, remplis du Saint-Esprit, et marchons avec droiture sur le sentier de la justice, que notre témoignage, notre manière de vivre, soit à la hauteur de ce que Dieu attend. En tout cas, qu'il y tende, qu'il tende vers la perfection que Dieu nous demande, même si on sait qu'on l'atteindra que là-haut, qu'une fois élevé avec le Seigneur, ne perdons plus de temps. Ce qu'on peut faire, faisons-le. Amen. Seigneur, tu es la lumière du monde. Ça n'a pas changé, Seigneur. Ce qui a changé, c'est que tu n'es plus sur cette terre physiquement, mais que tu as des enfants qui sont encore là physiquement. Je suis là, nous sommes là, et je veux vraiment pas gâcher du temps, perdre du temps. Je veux être rempli de toi. Je veux honorer ta parole en la lisant, en m'en nourrissant, Seigneur. Je veux avoir une parole, un verset inspiré de toi pour éclairer, pour aider quelqu'un, s'il te plaît, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être des instruments mis de côté parce qu'ils ne sont pas accordés avec ta parole, en accord avec ta volonté. Nous voulons être au contraire des instruments jouant pour toi, des instruments, des vases utiles, des vases d'honneur dans ta maison. Des vases, Seigneur, mis à part pour toi, qui ne sont pas souillés, mais qui sont sanctifiés pour toi. Aide-nous à avoir un témoignage qui t'honore, qui t'élève. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous cette grâce d'y arriver. Éclaire-nous s'il y avait un péché caché. Seigneur, aide-nous à nous en débarrasser, Seigneur. Par ton esprit, convainc-nous de péché, toujours. Aide quelqu'un à être délivré. Tu es le libérateur, celui qui délivre, Seigneur. Nous l'avons chanté, nous voulons le vivre. Que personne ne passe à côté, Seigneur. Que dans cette assemblée, Seigneur, tous nous ayons à cœur d'être des lumières dans ce monde, Seigneur. Et que nous ne négligions rien, Seigneur, de ta parole. Que nous ne laissions pas, Seigneur, que nous ne tolérions pas quelque chose qui pourrait t'empêcher de nous utiliser pour être une lumière mise sur le chandelier, Seigneur, pour éclairer le monde. Merci encore de cet honneur que tu nous as fait ce soir d'être là, alors que d'autres sont privés, sont empêchés à cause de la neige, du verglas. Merci Seigneur de nous avoir permis d'être là pour entendre ça. Et merci Seigneur de nous avoir permis encore d'avoir le choix de mettre en pratique ou non, puisque nous connaissons maintenant. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu vas faire dans nos vies. Et si quelqu'un était nouveau, s'il te plaît, ouvre ses yeux, fais tomber les écailles de ses yeux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen.